sel, il aiguise les tomates, il affûte des courgettes, ça va faire un bonheur. Beaucoup de chefs vont l'imiter. Puis il y a un autre chef, lui c'est un pâtissier, il s'appelle Philippe Conticini, et c'est l'un des premiers à inviter comme cela, à convoquer la fleur de sel du côté des desserts
et
du
chocolat. Dans la pâtisserie, exhausteur de goût, très utilisé en pâtisserie.
Et du coup, à ce moment-là, c'est lancé, la fleur de sel fait son grand retour. On la découvre d'ailleurs à la table et aux nappes des grands restaurants avec, vous savez, cette petite cuillère.
Oui, absolument.
Qui vient, comme cela, caresser cette fleur qui, on dit, la selle des reines et leur reine des selles.
Oh, il en parle bien. Merci, monsieur Rubin, Emmanuel Rubin, que l'on peut lire également dans le Figaro. Une question pour nos amis du public, cher Olivier. Il y a une bourriche de bonnes notes à gagner, ça n'arrête jamais.
Oui, et puis comme ils suivent bien, ça ne devrait pas être très compliqué.
Et vous êtes de plus en plus nombreux, merci.
On en a parlé tout à l'heure. Combien de temps et comment se conserve la pomme de terre primeur de Noirmoutier? Alors les bras se lèvent. Madame, vous êtes. Pardon?
4 jours et dans le noir.
Eh ben voilà.
Eh ben c'est gagné.
C'est double boîte.
C'est une double et un repas offert pour deux personnes, tiens, ce soir lors de la fête de la Bonnotte pour vous, madame. Vous voyez, vous avez bien fait de venir. Ne bougez pas, j'en profite juste pour vous dire que tous les week-ends à 9h moins le quart sur Europe 1, Julien Villani vous offre un tête-à-tête avec des personnalités incontournables. Demain, elle reçoit Léa Drucker à l'affiche du film Un homme en fuite qui est en salle mercredi prochain. Des entretiens, vous le savez, à réécouter en replay sur le site europe1.fr et l'application Europe 1, bien entendu. C'est le même endroit pour écouter les podcasts de la table des bons vivants. On revient dans un instant avec le pain. Je vous la dépose sur votre bureau, les
Naïcs.
On fait
plaisir.
Comme ça.
Bonne émission, Laurent.
Allez, merci, à tout à l'heure, à midi et demi.
Pour un repas midi week-end. Ça pour un euro. C'est 4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Heureux de vous retrouver à table comme tous les samedis de 11h à midi et demi, toujours avec Emmanuel Rubin que vous pouvez lire dans le Figaro et Monsieur Pouls qu'on peut retrouver dans la matinale de la Naïque justement et puis aussi dans la revue du vin de France. Nous sommes installés ce samedi sur l'île de Noirmoutier à la coopérative agricole de la pomme de terre primeur parce qu'on l'a fête aujourd'hui la pomme de terre primeur ici et nous sommes en public jusqu'à midi et demi. Alors on reçoit un chef local, le chef Patrice Miasso. Bonjour Patrice.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres. Vous êtes le chef du restaurant laitier qui est situé au bord de l'eau.
Tout à fait.
Au milieu des étiers avec l'eau qui va remplir les marais salants. Pour les novices que nous sommes, qu'est-ce que c'est qu'un étier? Racontez-nous.
Alors un étier, tout d'abord, c'est un bon restaurant.
Oui, absolument. On va en parler. Oui,
pas
oui, oui, mais il a raison. Depuis 35 ans, vous êtes à l'étier.
C'est ça, ouais, hein, depuis 35 ans, ouais. Et donc, un étier, c'est ce qui amène l'eau dans les marais salants et c'est ce qui régule un petit peu la faune et la flore locale de nos marais salants.
Alors c'est vrai, je le dis depuis tout à l'heure, on va en avoir la preuve dans un instant avec David, qui est marin pêcheur, qui sera avec nous. Mais il y a plein de pépites entre la pomme de terre, le sel, les huîtres, et puis ce que nous découvrons aussi autour du poisson. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire comme plat du jour? Racontez-nous alors.
Alors moi j'ai décidé de vous présenter un lieu jaune de ligne pêché par David. Et j'ai voulu faire donc autour de la pomme de terre un écrasé de pommes de terre avec un mélange d'algues, de la détue de la mer. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les algues sur Noirmoutier. On va chercher que ce soit du goémon, de la laitue de la mer sur le vieil
tour
de Noirmoutier. La salicorne également. La salicorne, et ce que je voulais mettre en avant, on en parle très peu, c'est j'ai fait une recette, j'ai fait un petit milkshake de pommes de terre.
Un milkshake de pommes de terre.
De pommes de terre au safran de l'île de Noirmoutier.
Ah, comment vous faites ça?
Oui, il y a du safran ici.
Ouais, il y a du safran sur l'île de Noirmoutier. Et c'est vrai qu'on parlait de pépites, que ce soit le sel, la pomme de terre, il y a plein de choses. Mais le safran, c'est quand même une... Enfin, pour moi, il y a l'or blanc, il y a l'or jaune, comme la pomme de terre, il y a l'or rouge.
Comment vous faites ce milkshake? Expliquez-nous, parce que...
Alors, le milkshake, je fais revenir de la bonnotte dans un bouillon de volaille. Je fais infuser le safran de Noirmoutier. Et après vous mixez le tout, vous mettez du lait et bien foisonner.
Ah, vous mixez parce qu'on a toujours dit, moi quand j'ai passé mon CAP, on m'a toujours dit il faut jamais mixer la pomme de terre parce que ça devient élastique. Et là c'est pas le cas du tout.
Non, c'est pas le cas parce que on dit toujours la bonnotte, c'est un goût de terroir et un goût de mer et en fin de compte elle a une texture tout le monde dit elle est un petit peu farineuse mais c'est pas qu'elle est farineuse, c'est qu'en fin de compte avec cette pomme de terre vous pouvez tout faire, on fait du gâteau à la pomme de terre, on fait plein de choses
parce
à
qu'en
base
fait c'est une pomme de terre qui contient peu d'amidon.
C'est ça.
Comme elle a du sucre, elle a peu d'amidon.
Et voilà pourquoi on peut la mixer.
C'est l'amidon qui fait corner la pomme de terre.
Et c'est pour ça, oui, c'est corner le mot exact quand elle devient élastique. Ouais. Pas de purée au mixeur, hein, messieurs dames.
Non,
et c'est écrasé, alors elle est faite comment?
Mais on l'a fait, donc on l'a écrasé à la fourchette. On a mélangé un peu de laitue de la mer.
Et si votre beurre, il y a du beurre.
J'espère bien.
Un petit peu beaucoup. C'est pour ça qu'on cuisine beaucoup avec. On fait des bases de beurre d'algues, des choses comme ça.
Plat totalement locavore, là. Biotope total dans la seule assiette.
C'est du 100% local.
À part le beurre.
Et alors, un mot sur le poisson, qui est ce lieu.
Sa cuisson, qui est parfaite.
Oui, la cuisson est parfaite. Et poisson qu'on trouve sur les côtes, là, du coup.
Ouais, c'est vrai que Noirmoutier, c'est quand même une île riche, avec un port de l'Herbaudière et des marins. Et c'est vrai qu'on pêche beaucoup de poissons sur Noirmoutier, du poisson de ligne, tel que le lieu, le bar.
C'est vrai que le laurier est très présent dans la cuisine ici. Il nous en parlait tout à l'heure, Alexandre Couillon. Pareil, il faisait revenir ses pommes de terre de Noirmoutier dans du beurre avec du laurier ensuite. C'est délicieux, ça.
Délicieux. Grande famille des flancs. Alors, je vais quand même vous donner ce fameux nom parce que le belge y tient.
Oui.
Attention. On l'appelle le fion.
Le
fion.
Ah d'accord.
Oui, oui.
Oui, oui, mais on le dit pas tous les jours. Non,
le flan maraîchin.
Le fion. Pourtant,
il n'est pas carré. Hein.
Et rond,
en forme.
Il est délicieux. Et ben nous faisons participer justement au public qui va déguster de ce flan maraîchin.
C'est vrai qu'il est très, très bon.
Il est en train de circuler, c'est délicieux. Alors, impossible de venir dans cette région, Olivier, sans parler du muscadet, qui est un vin voisin, on va dire.
De l'autre côté, en tout cas, du pont, c'est la région nantaise. Alors, si je vous dis muscadet, malheureusement, je parie que vous serez nombreux à répondre vin de comptoir, vin pour les huîtres, vin qui nettoie les dents, à la limite. Bref, assez peu valorisant pour, en réalité, une appellation qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Petite mise au point, le vignoble est donc situé dans la région nantaise. Il recouvre une appellation régionale, le Muscadet, et trois appellations locales, Muscadet du Sèvre-et-Maine, Muscadet Coteau de la Loire et Côte de Grandlieu. Il y a un cépage unique qui compose ce vin.
Vous en avez
c'est
déjà
le
parlé.
Fameux melon de Bourgogne qui est né en Bourgogne, mais qu'on trouve paradoxalement pratiquement plus là-bas, sauf dans la région de Vézelay. Il y a un terroir, évidemment, celui du massif armoricain, et un climat océanique qui donne à ce vin toute sa personnalité. En tout, aujourd'hui, environ 330 producteurs.
Alors, trois arguments pour nous convaincre d'en boire, parce que, comme vous le disiez au début, effectivement, on a tendance à le laisser un petit peu de côté, et puis à dire, allez, c'est juste le vin des huîtres. Enfin, voilà, il est parfois un petit peu...
Je vais essayer de vous convaincre.
Sur le côté du comptoir.
Alors d'abord, c'est une région qui est en pleine effervescence, avec beaucoup de jeunes vignerons très dynamiques. Vous savez, comme dans la cuisine, il y a de temps en temps des générations qui impulsent des choses. Ça, c'est le cas également dans les vins du Muscadet. Ils soignent leurs vignes avec grande attention, adaptent aussi les élevages. Certains élevages peuvent atteindre 48 mois, ce qui permet d'obtenir des vins plus gras, plus riches, plus complexes aussi. Deuxième argument, ce sont des vins de grande garde, 10, 15, voire 20 ans. Leur acidité, qui peut déranger un petit peu au départ, les destinent à de très longs séjours en cave.
Mais ça a peut-être été ça le problème aussi, c'est que c'est des vins de garde, vous le dites, et on les buvait peut-être un peu trop rapidement.
Parfois un peu trop jeune. Et puis les prix, autour de 12-15 euros, on peut déguster des vins absolument fantastiques, comme celui que je vous ai apporté.
Eh bien, il est délicieux. Et quelques noms, justement, pour s'y retrouver?
Eh bien, le domaine de Bellevue à Guétigné, Pierre Luneau Papin, ou alors le domaine Beaulieu à Château-Thénard. Et là, je vous ai apporté un Muscadet Sèvre-et-Maine sur lit, du domaine l'Orangerie du Château de la Noé. Et franchement, c'est absolument délicieux à goûter. Vous voyez que ça se marie avec très bien avec cette cuisine locale aussi.
Et plus le fier gris, enfin voilà, on est le fier vendéen ou le fier gris? Comment vous l'avez appelé tout à l'heure, l'autre?
Le fief vendéen.
Le fief vendéen. Parce qu'il y a du fier gris aussi. C'est un autre vin,
oui,
ça que j'avais dit.
C'est autre chose.
C'est autre chose. Avec un petit côté pierre à fusil. Madame, présentez-vous, madame. C'est une grande tablée. C'est l'auberge espagnole ici. On accueille tout le monde. Bonjour, madame. Qui êtes-vous?
Bonjour. Alors, moi, je suis Delphine Nobiron du domaine des Granges. Avec Christian Nobiron, on est un couple d'artisans vignerons. Sur l'appellation des fiefs vendéens Brême.
Ah bah voilà.
Voilà, donc local.
Vous êtes responsable de cette petite merveille que nous dégustons alors. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois qu'il y a des assiettes en moins.
Il y a des assiettes en moins. Ça fera de la vaisselle. Ça fera de la vaisselle en moins. Eh ben merci d'être venu nous rendre visite et vous approuver ce.
Oui, puis franchement, il faut redécouvrir ces vins des fiefs vendéens parce que on est quand même dans une époque où on cherche des vins plus digestes, moins riches qu'en alcool, plus faciles à boire peut-être, et c'est parfaitement des vins qui répondent à tous ces critères.
Alors on est venu ici pour célébrer entre autres la pomme de terre primeur qu'on récolte aujourd'hui. Fête de la Bonnotte ce soir dans la cour de la coopérative agricole. Patrice, on m'a expliqué que vous faisiez un gâteau à base de pommes de terre aussi.
Ouais, c'est une recette, chercher un petit peu une recette locale qui... Et j'ai demandé à des gens de me renseigner ce qu'ils faisaient auparavant comme recette d'un dessert local, et on m'a parlé d'un gâteau fait à base de pommes de terre. Donc on a fait des essais, j'ai eu la recette, on a vu un peu, et l'avantage c'est que ce gâteau à la pomme de terre, ça donne une texture comme jamais, c'est une texture qu'on retrouve nulle part. Et en fin de compte, ce gâteau à la pomme de terre, nous au restaurant on voit beaucoup de gens qui sont sans gluten ou qui mangent pas de gluten, et c'est un dessert qui va parfaitement
C'est comme une pâte sablée, mais c'est plus moelleux, c'est moins sec.
Ouais.
Il y a pas de gluten dans la pomme de terre. Et nous accueillons Mimi, qui est auditrice et qui est aussi noirmoutrine, et qui fait ce gâteau de pommes de terre aussi, Mimi.
Je suis ancienne agricultrice, donc une pomme de terre qui est très bonne. On sent le petit goût de Bonnotte, avec du beurre, du sucre,
voilà,
et la pomme de terre. Et puis de la poudre d'amande.
Ouais, voilà, on met un petit peu de poudre d'amande, mais
voilà, il l'avait pas dit, la poudre d'amande.
Voilà.
C'est les chefs, ils veulent garder les
merci Mimi. C'est le goût que je cherchais, merci Mimi.
Merci Mimi d'être venu.
Voilà, restez. Vous, par contre, vous pouvez partir, vous avez assez vu.
Merci Patrice Niasso, restez avec nous. Ne l'écoutez pas, restez avec nous. On rappelle que ce soir.
Alors, est-ce que vous la voyez, la fermeté, Jean-Christophe Gallien?
Elle vient d'arriver. Elle a mis du temps. Je pense qu'il y a d'abord parce que le gouvernement a un peu accompagné Prisca Thévenot. On a suivi, oui, on a l'impression que c'est suivi, mais pas tout à fait traité. Et surtout au départ, c'est-à-dire qu'en fait, Sciences Po, ça a été un moment particulier où il y a eu un doute parce que cet espace, cette organisation, ce lieu est quand même soumis à des turbulences maintenant depuis quelques années, pour pas dire autre chose. Et on sent bien qu'au niveau de la direction, au niveau de certains enseignants, il y avait un gros flou, voire un accompagnement, là aussi une forme de soutien. Et à partir du moment où ça s'est enquisté, c'est resté, ça s'est développé, avec l'écho permanent de certains campus aux États-Unis, rappelons quand même que tout ce dont on parle, c'est quand même très minoritaire. Même à Sciences Po, ce sont des gens qui sont c'est une minorité active, certes, évidemment, mais qui finalement est très minoritaire, je le redis, par rapport au nombre d'étudiants et d'étudiants, que ce soit à Sciences Po ici et dans les universités américaines, pour bien les connaître, celles dont on parle. Là aussi, c'est très minoritaire. Ce qui était très fort et très bien organisé par ces mouvements, ça a été l'exploitation de cette faiblesse, justement, de la réaction, de la difficulté de réagir des organisations elles-mêmes, c'est-à-dire de leur direction et des enseignants, et ensuite, effectivement, des forces politiques, en tout cas gouvernementales. Et à partir de là, c'est clair qu'ils ont réussi, et quelque chose qui est très fort, c'est d'exploiter à la fois la rue médiatique, et puis beaucoup, ce qu'on décrit pas, l'aspect digital et social, où là, pour le coup, il y a une grosse activation.
Oui, parce qu'on sait bien, hein, Jean-Christophe Gallien, que c'est pas bien compliqué de mettre la jeunesse estudiantine dans la rue, la culture du local, ce n'est pas récent. Pourquoi cette cause-là, cette cause palestinienne ?
Alors, il y a plusieurs effets. Il y a d'abord aussi quelque chose qui tient à l'implication d'un certain nombre de forces politiques, ça et là. Aux États-Unis, c'est un peu moins clair, même si une partie, notamment de mouvements de gauche aux États-Unis, voire d'extrême gauche aux États-Unis, mais aussi à l'intérieur du Parti démocrate, ont eu quelques liens très 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 affirmés avec ces mouvements.
Alors que chez nous, c'est plus identifié. Voilà.
On l'a en France, c'est très identifié, avec un parti qui, dans un contexte encore une fois d'élections européennes, où qu'est-ce qu'on fait devant les européennes ? On va aller se coter à une élection. Quand je dis se coter, chaque force politique doit fixer son rapport de force, parce que chaque force politique va être cotée dans cette élection. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur un terrain de marketing politique, sa propre géographie, ses propres cibles. C'est ce que tous les partis essaient de faire en ce moment, et notamment LFI, qui a trouvé là, je dis pas que c'est eux qui ont initié, évidemment, loin de moi de penser ça, ce mouvement, évidemment, mais qui ont compris qu'à travers ce mouvement, et on le voit maintenant avec les développements, notamment dans les autres universités et éventuellement même au lycée, on voit qu'il y a là quelque chose qui est un travail, pour le coup, d'accompagnement, là aussi, mais pour des raisons qui sont aussi de conquête politique, hein, et d'animation politique d'un espace qui est celui-là, qui a été un espace sur lequel on sent une forme d'opportunisme très très important. Et effectivement, cet espace, il est là pour les européennes, et puis il est surtout là pour structurer quelque chose qui viendra dans les deux prochaines années aborder
pour le coup
élection présidentielle, élection législative, exactement.
Et alors, Jean-Christophe Gallien, on voit, hein, pourtant, on entend qu'il y a une, on l'entend pas justement, une majorité silencieuse qui aimerait que la tenue des examens se tienne sereinement la semaine prochaine. Pourquoi ces étudiants ne le disent pas ouvertement ?
Parce que je pense qu'il y a deux aspects. Oui, il y a deux aspects qui sont très forts. D'abord, tout ça parle de gens qui sont connectés, organisés, qui se sont organisés de manière spontanée aussi, mais parfois aussi avec des organisations préexistantes. Il n'y a pas de champignons qui poussent comme ça de manière aussi naturelle, si vous voulez, à l'intérieur d'un mouvement, d'un espace académique, quel qu'il soit. Donc, ça repose sur un certain nombre de points. Je rappelle que c'est...
Qu'une intervention militaire à Rafah aurait bien lieu. Cette opération, elle pourrait être lancée dès la semaine prochaine si le Hamas ne répond pas favorablement à la proposition d'accord, affirment des médiateurs égyptiens. Une sorte d'ultimatum et un moyen de faire pression sur le mouvement islamiste palestinien après des mois de négociations sans succès. Alors cette fois-ci, responsables égyptiens comme ceux du Hamas affirment poursuivre les discussions avec, je cite, un esprit positif. Côté israélien, pourtant, il y a ce matin beaucoup moins d'optimisme. Ici, les renseignements estiment que le Hamas n'a pas abandonné sa principale demande, à savoir la fin définitive de la guerre, ce à quoi Israël s'oppose. La réponse est en tout cas attendue d'ici quelques heures.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Et Joe Biden, lui, est sous la pression. On le disait il y a un instant, de son aile gauche, 88 parlementaires démocrates exhortent le président américain à envisager d'interrompre ses ventes d'armes à Israël si le gouvernement israélien ne venait pas à changer sa stratégie de guerre. Il est 1h moins le quart sur Europe 1. Dans un instant, deuxième partie d'Europe 1 midi week-end, nous parlerons de Mayotte, toujours au bord du gouffre, avec la ministre des Outre-mer, Marie Guévenou. Et puis le logement social à vie, c'est fini. Objectif en tout cas affiché hier par Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement. Éric Jagmar, président de la Confédération nationale du logement, est l'invité d'Europe 1 midi week-end. A tout de suite.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk.
Europe 1, le grand rendez-vous.
Demain, le grand rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité, le politologue Jérôme Fourquet. La campagne des européennes qui s'accélère, les manifestations et blocus dans les universités et le phénomène d'ultra-violence chez certains jeunes. Sur tous ces sujets, l'auteur de L'Archipel français et de La France d'après est à retrouver demain sur CNews et Europe 1.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Chez Conforama, on pense à ceux qui auraient bien besoin d'une pause fraîcheur.
Avec moins 50€ sur le réfrigérateur combiné Hisense et son distributeur d'eau à 399,99€.
Eh oui, pas de pause sur les bonnes affaires. Conforama, jusqu'au 3 juin, voire conditions sur conforama.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah bah vous pouvez y aller, ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe 1 midi week-end, Lénaïque Monnier.
Deuxième partie d'Europe 1 midi week-end et nous partons à Mayotte. C'est le quatrième déplacement depuis sa nomination pour Marie Guévenou, ministre déléguée aux Outre-mer. Elle vient de passer 48 heures sur place. Déplacement sur le thème de la lutte contre l'immigration clandestine avec un objectif: convaincre les députés qui l'accompagnaient de voter pour la suppression du droit du sol dans le département. C'est une demande des élus mahorais. Et il y a urgence, nous a donc dit ce matin la ministre Marie Guévenou.
Vous avez 11 000 naissances à Mayotte. 75% sont le fruit d'une parturiente étrangère. Mmh. Vous avez 15 000 titres de séjour délivrés par an à Mayotte. 85% le sont du fait de la vie familiale. Vous avez 42% des titres qui sont délivrés à des parents d'enfants français, contre 4% en hexagone. Donc vous voyez, si je vous mets tous ces chiffres, il y a une attractivité de la nationalité et des titres de séjour à Mayotte, et c'est pour ça qu'on veut abroger ce droit du sol à Mayotte.
Mary Guévenou, ministre déléguée aux Outre-mer, invitée d'Europe 1 ce matin. Et à propos également de l'épidémie de choléra qui sévit sur l'île, Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé, assure que la situation est sous contrôle et lui aussi se rendra à Mayotte. Ce sera à partir de jeudi prochain. Dans le reste de l'actualité, paiement de surloyer, prise en compte du patrimoine, choix des maires, les conditions vont se durcir pour accéder au logement social ou bien pour y rester, annonce sur Europe 1 hier du ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. On accueille pour en parler Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre regard sur cette annonce? On va d'abord parler du logement social. 2 millions de personnes qui sont en attente. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une mesure d'équilibre ou d'injustice?
Écoutez, en fait, cette mesure, elle va dans la continuité de l'arrivée au pouvoir de M. Macron en 2017. C'est la deuxième attaque frontale qu'on a sur le logement social avec la loi Elan qu'on a eue en 2018, plus maintenant cette loi. Ben, c'est la continuité d'une attaque du logement social, alors que c'est normalement l'amortisseur qui devrait pouvoir permettre de résoudre la crise du logement. Et là, le ministre, moi j'attendais rien de ce ministre, ben, c'est confirmé, j'attendais rien, mais là il nous donne des mesures négatives, c'est-à-dire qu'il est en train de remettre en question une loi de la République, la loi SRU, et cette loi, elle va faire plaisir à tous les maires qui ne respectent pas la loi SRU, cette loi qui est quand même le fondement de la solidarité nationale pour les quartiers. Hein, vous savez quand même qu'il y a des maires qui ne respectent pas volontairement la construction de logements sociaux. Voilà, ils préfèrent payer des amendes avec l'argent des contribuables et ils ne respectent pas cette loi et continuent d'être élus dans leur ville. Donc, il est important que l'équilibre républicain dans les quartiers soit respecté et cette loi, elle va à l'encontre justement de cet équilibre. Ça, c'est un premier point. D'autres points, c'est le choix du roi que pourront faire les maires sur les attributions de logements sociaux, ce qui est très très grave puisque là, on n'est plus dans une République, je dirais, unitaire, on sera sur du clientélisme local. Donc c'est quand même assez grave. Et nous, ce qu'on aurait préféré, c'est la construction de 250 000 logements par an avec un financement adéquat, ce qui n'est pas le cas du tout, puisque depuis 2018, Monsieur Macron a ponctionné plus de 10 milliards d'euros dans les caisses des logements sociaux. Donc tout ça serait permis de construire beaucoup de logements sociaux. Donc on est très, très en colère, en tout cas, nous, la CNL.
Mais alors, Eddy Jacquemart, le ministre du Logement lui promet quand même de construire plus de biens pour faire baisser les prix. Là, on parle de logements intermédiaires. Est-ce que là, ça, c'est une bonne solution?
Mais pas du tout, parce que le logement intermédiaire, c'est du logement, en fait, pour les classes moyennes. Il faut, c'est dans ce pays, construire du logement social abordable pour tous et avoir une véritable mixité sociale. Ce qu'il veut faire, le ministre, c'est chasser les moins pauvres des pauvres des HLM. Franchement, 8% de personnes qui sont au-dessus des plafonds aujourd'hui, c'est vraiment très peu. Il faut quand même savoir que ces plafonds ont été abaissés en 2009 par la ministre de M. Sarkozy, Mme Boutin, qui a abaissé de 10% les plafonds d'accès au logement social, donc ils sont déjà très faibles. On est sur l'ordre de, par exemple, dans un type de logement social, on est de l'ordre de 14 000 euros de revenus imposables par an, ce qui est très, très, très faible. Et donc, on se rend bien compte que le parc social se paupérise d'année en année. Moi, je le vois bien dans toutes les rencontres qu'on fait avec nos amicales et nos fédérations départementales. On a une véritable crise de paupérisation des habitants du parc social. Et monsieur Kasbarian, il va encore l'aggraver avec toutes les difficultés qu'il va y avoir encore en plus avec des populations fragiles mises ensemble. J'ai envie de dire qu'on est parti pour des ghettos de pauvres. Et ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est des mixités sociales avec des instituteurs dans les HLM, des infirmières dans les HLM, une vraie mixité sociale. Et il faut arrêter la chasse aux pauvres. Ce gouvernement fait la chasse aux pauvres. Il fait la chasse aux pauvres aux chômeurs, aux gens qui touchent le RSA, et maintenant, ils s'attaquent aux gens qui habitent le HLM. Et franchement, il faut que ça cesse.
Et on a bien compris votre coup de colère et votre émotion, Eddy Jacquemart, vous qui présidez la Confédération nationale du logement. Dans un instant, troisième et dernière partie déjà d'Europe 1 Midi Week-end, nous allons parler de sport. Le Tour d'Italie, le Giro, s'élance aujourd'hui. Est-ce qu'il est promis à Tadej Pogacar? On va en parler.
Midi 30, 13h.
Europe 1 midi week-end.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, vos champs participants et en livraison à domicile.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Au premier Homo erectus qui a découvert qu'on pouvait faire du feu avec deux bouts de bois. À celui qui a fait tomber un morceau de viande dedans et qui s'est dit « Viande, feu, mangez bon !» Et à celui qui en avait marre de se brûler la main et qui inventa la grille. Enfin, la grille, quoi. Pour les amoureux du barbecue, jusqu'à samedi, Intermarché propose les chipolatas naturaux aux herbes et les merguez à seulement 7,90€ le kilo. Et ce week-end, profitez de 10% en avantage carte sur tout le rayon traditionnel boucherie.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Chipolata, origine France, merguez transformée en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Europe 1 midi week-end, Lénaïque Monnier.
Troisième et dernière partie d'Europe 1 midi week-end et nous parlons de sport avec le top départ du Giro du Tour d'Italie aujourd'hui et cette première étape entre Venaria Reale et Turin. Alors sans surprise, l'immense favori c'est Tadej Pogacar. Le Slovène signe une saison magistrale avec sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Il peut rêver du doublé Giro Tour de France et cela fait plus de 25 ans, Martin Lange, que ça n'est pas arrivé, ce serait un exploit.
Oui, depuis 1998 exactement, et un certain Marco Pantani. Cette année-là, le pirate avait levé les bras à Milan et sur les champs. Une autre époque marquée aussi par le dopage. Mais selon Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, s'il y a un coureur capable de réaliser cet exploit, c'est bien Tadej Pogacar.
Il a un grain de folie, même peut-être deux grains de folie, Pogacar, voire trois. Il est capable de tout, et il a un programme qui est très très allégé cette année, puisqu'il arrive au départ du Tour d'Italie avec 10 jours de course seulement, dont cette victoire, et qu'il a une équipe de folie sur le Tour de France, avec un seul but, faire gagner Pogacar à Nice le 21 juillet.
Avant cela, il faudra déjà triompher de l'autre côté des Alpes face à une adversité certes amoindrie, mais le Giro réserve souvent des surprises avec des conditions climatiques dantesques. Le Slovène devra ensuite vite récupérer 5 semaines seulement entre l'arrivée à Rome et le départ de la Grande Boucle. Depuis 26 ans, ils sont plusieurs à avoir tenté le doublé Giro Tour de France. Alberto Contador, Christopher Froome, tous s'y sont cassés les dents. En y parvenant, Pogacar rejoindrait un peu plus les géants de son sport, Fausto Coppi, Eddy Merckx ou encore Bernard Hinault.
Martin Lange pour Europe 1 et on termine cette édition avec de l'opéra, cette opération Tous à l'opéra. Face à des difficultés budgétaires, eh bien les scènes lyriques sont obligées d'écarter des œuvres, hein, voire pour certaines de fermer leurs portes pour un temps. 60 000 personnes sont attendues, c'est une 17e édition importante pour renouveler le public de l'opéra. Mathieu Prior.
Des visites en écoutant du Verdi ou encore des escape games à l'Opéra Garnier à Paris pour découvrir ce monument historique. Un rendez-vous crucial pour Frédéric Perrouchine, directeur de la Réunion des Opéras de France.
Il est évident que le public de l'opéra doit se renouveler sans cesse. On a besoin que nos salles soient remplies pour faire vivre le modèle économique de l'opéra qui est un modèle fragilisé par les baisses de subventions.
En 2023, le secteur lyrique a connu moins de levées de rideaux et des spectacles plus coûteux à cause de l'inflation. Le ministère de la Culture affirme que les aides n'ont pas diminué. Pour Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra de Montpellier, il faut tout de même rester prudent et faire des concessions.
Par exemple, on a décidé de reporter La Force du Destin, qui est un grand opéra italien. On a transformé en concert gala, en gros, une production d'opéra née autour de 600 000 euros. Sur un concert de gala, on va être entre 150 et 200 000 euros. On est à flux tendu.
Un flux tendu malgré le mécénat et l'aide de la métropole de Montpellier. La solution reste de compter dans ses rangs un nouveau public.
Mathieu Prior pour Europe 1. Il nous reste à voir le